Bonjour à toutes et à tous. Nous n'avons pas de générique ce soir. Je suis Marin Maufray, je suis accompagné d'Arthur.
Bonsoir.
Arthur, est-ce qu'on nous entend? Il faut activer ta ligne.
Bonsoir.
Bonsoir Arthur. Nous sommes tous les deux ce soir en régie. C'est un petit peu particulier. Nous ne sommes pas dans le studio. Nous sommes tout à fait en autonomie dans cet enregistrement. Arthur, tu seras la personne qui va animer l'émission. Pour ma part, je vais vous faire part pour ma dernière émission avant les vacances d'un petit retour d'expérience. Arthur, je te laisse prendre la main.
D'un petit retour d'expérience d'une très belle histoire. Merci Marin de venir ce soir pour raconter ton histoire et parler de toi de façon un peu plus intime. C'est comme tu disais, c'est assez exceptionnel ce soir vu qu'on est en totale autonomie à gérer la régie et à faire l'animation, mais je suis sûr que ça va très bien se passer. Et donc pour faire le petit pitch de départ, vous êtes sur Radio Galère pour l'émission Écoforum et nous serons en direct jusqu'à 20h et vous pourrez nous écouter demain à l'occasion du 14 juillet, la fête nationale, de 9h à 10h le matin. Aujourd'hui, Marin va commencer par nous lire un petit texte qu'il a écrit et qui est très inspirant. Je t'en prie, Marin.
Je te remercie Arthur, et donc effectivement avant de lire le texte, Écoforum c'est l'acteur qui donne la parole aux acteurs et aux actrices de la transition écologique et sociale. Et en fait l'idée de cette émission c'est de présenter quelque chose un peu en trois temps, avec d'abord la formulation on va dire d'une forme de rêve ou d'un cri avec le texte que je vais vous lire, puis les différentes réponses tant dans les idées que dans les actions pour essayer de trouver réponse à ce cri et d'accomplir ce rêve. Donc je vais vous lire un texte que j'ai écrit en septembre 2019. Donc il faut un petit peu se remettre dans le contexte de l'époque. Septembre 2019, c'est avant le Covid. C'est une période où on se posait déjà un certain nombre de questions, notamment liées aux gilets jaunes, mais où, on va dire, grand nombre de chocs systémiques n'ont pas encore eu lieu à ce moment-là. Et donc c'est une lettre que j'ai adressée à mes petits-enfants, à la fois pour réellement leur parler avec un cri du cœur, à une époque où j'avais quitté quelques mois plus tôt Danone, pour lequel j'étais pas d'accord avec certaines raisons écologiques, et aussi pour essayer de secouer un certain nombre de personnes qui faisaient partie de mon entourage à l'époque, et leur permettre de prendre conscience de certains enjeux. Donc voici ce texte. Mes chers petits-enfants, comment vous dire? Je ne vous connais pas encore et donnerai ma vie pour vous rencontrer. Ici, en 2019, les temps sont délicats. La terre brûle, mais la fête continue. Danse irlandaise sur le pont du Titanic, 5 minutes avant un pacte, insouciant de ce qui se passe sous nos pieds, roulez jeunesse. Nous sommes quelques-uns à comprendre, stupéfaits. Je vous prie de ne pas trop nous en vouloir. Ils croient encore dans l'intelligence artificielle, la voiture autonome, le libre-échange, et que notre argent pourra tout acheter. S'ils savaient, nous avons toujours appris que rien n'arrêtait le progrès. Ils ne peuvent pas concevoir que tout puisse s'arrêter. Nous autres qui avons compris ce qui se tramait, nous sommes glacés. Nous regardons, hagards, Icare s'envoler un peu plus vers le soleil. Si seulement nous n'étions pas, nous aussi, à bord du même vaisseau. La forêt vierge brûle, les pôles fondent, les océans succombent de plastique, les écosystèmes s'effondrent, les abeilles disparaissent, les sécheresses se font virulentes, les urgences hospitalières craquent, les agriculteurs se donnent la mort, les employés en gilets jaunes grognent, les migrants climatiques se pressent toujours plus nombreux sur les routes. Nos démocraties se noient dans la bêtise. Et tout cela est parfaitement interdépendant, comme un château de cartes dont il ne suffirait de n'en retirer qu'une pour que tout s'effondre. Et pourtant, ce n'est que 2019. Dans nos villes, la relative accalmie avant le déluge. Le jardin du Luxembourg a été arrosé tout l'été. Nous ne voyons rien. Nous avons juste eu un peu chaud au mois de juillet. Certains espèrent encore que la croissance sera bonne l'année prochaine. Ils ne voient pas. Ils ne comprennent pas que donner leur réserve de fourrage d'hiver dans les fermes en plein mois d'août se payera peut-être dans notre assiette en février. Ils ne réalisent pas que l'assèchement des nappes phréatiques se sentira un jour ou l'autre au robinet. Ils ne conçoivent pas que l'Amazonie qui brûle se percevra l'été prochain dans l'air brûlant que nous respirerons. Ils ne comprennent pas que nous payons nourriture et énergie en dessous du prix coûtant et qu'un jour nous devrons payer l'addition. Et toutes ces populations à qui leurs médias répètent en permanence que le but d'une vie est le pouvoir d'achat, comment réagiront-elles? quand tous les biens du quotidien deviendront des possessions de luxe? Ont-ils déjà étudié comment se forment les révolutions depuis leur tour d'ivoire? Comment ne peuvent-ils pas concevoir que tous ces dérèglements vont charrier leur lot de violences dont ils ne seront pas épargnés dans leurs immenses centres urbains? Ils pensent aller où après? Ils parlent du principe de réalité, mais jettent l'opprobre sur les rapports scientifiques unanimes du monde entier. Ils ont fait les plus grandes études, sont médecins, scientifiques, avocats, mais ne voient pas les logiques systémiques qui sont en œuvre. Je ne comprends pas comment ils peuvent rester aussi aveuglés, ou pire, insensibles. Je vous dis ça, mais en fait, si, je comprends. Il y a 400 ans d'histoire derrière nous. L'esprit cartésien, la promesse du progrès, le développement de la puissance occidentale grâce à ces révolutions industrielles où nous avons dompté la nature. Certains ont fait fortune sur ce modèle. Faire machine arrière, c'est envoyer leur vie entière et toute leur représentation du monde aux orties. C'est un effort psychologique insupportable pour eux. On n'arrête pas un train en marche d'un claquement de doigts. Mais sachez que nous ne baisserons pas les bras. Jamais. Chaque jour, je me lève en pensant à vous. Il y a quelques mois, j'ai quitté une multinationale parce que mon travail était de négocier pour que le plastique ne soit pas interdit. Vous vous rendez compte? Cela me rendait fou. Chaque matin, j'y allais en tremblant, haïssant un peu plus ce système pourri qui souille mon âme pour quelques billets. Si vous saviez combien ces enjeux m'ont tourmenté. J'en ai fait des nuits blanches. Il y a eu des moments où j'ai eu envie de tout arrêter. Toutes ces études, tous ces efforts, pour voir un monde se déliter sous mes pieds au moment de prendre mon impulsion pour m'envoler à mon tour. Et en plus, je constatais qu'autour de moi, tout le monde ne réalisait pas, trop ancré dans leurs schémas anciens. Un cauchemar. Alors, j'ai pensé à vous. Mes petits-enfants, je voulais avoir l'honneur sauf à vos yeux. J'ai démissionné en conscience. Défendre les intérêts court-termistes de l'entreprise pour laquelle je travaillais, au détriment du temps que nous passerons ensemble, m'était parfaitement intolérable. En partant, j'ai eu la chance de m'entretenir longuement avec son patron, après l'avoir interpellé par lettre. J'ai essayé de le convaincre que lorsque l'on sentait le vent social et environnemental tourner, il fallait lâcher sa voile économique et l'aborder de l'autre côté, pour virer de bord et ne pas casser son mât. J'ai fait ce que j'ai pu pour l'inciter à insuffler un avenir souhaitable et que son entreprise crée une brèche plus vertueuse dans laquelle toute la société pourrait s'engouffrer. Je suis convaincu qu'il fait déjà de son mieux. À plusieurs reprises, j'ai rencontré le maire de ma ville dont je suis élu. Il est incité à changer à tout prix sa politique environnementale. Je vois qu'il bouge. Je suis heureux. Nous sommes de plus en plus nombreux à réaliser ce qu'il se passe. Les mentalités évoluent. Doucement, mais sûrement. Les ralliements se font un à un. Il faut se laisser toucher dans son cœur. Moi-même, ça n'a pas toujours été ça. Et il me reste encore tellement de chemin à parcourir. Ma propre évolution est mon espoir. Si j'en suis capable, les autres le peuvent aussi. Je fais ce que je peux, mais sachez que nous sommes des millions de petites mains, tapis dans l'ombre, cherchant à y résister. Au fait, je me rends compte que j'utilise des notions que vous ne connaissez peut-être pas. Multinationales, mer, argent. Ce sont des imaginaires collectifs que nous nous sommes inventés dans les temps dits modernes, pour que nous puissions nous entendre et faire société ensemble. Peut-être que vous aurez d'autres structures sociales et codes autour desquels vous retrouvez. Je vous le souhaite. J'espère en tout cas que vous me comprenez lorsque j'emploie ces mots bientôt désuets. Après mes mésaventures, j'ai pris le temps de m'arrêter quelques instants et de redécouvrir les matins. La nature s'est offerte dans son plus bel appareil à mes yeux ébahis. Quelques jours d'hiver dans un monastère millénaire au large de la Méditerranée, le ciel s'est drapé de lueurs dont je n'aurais pu imaginer jusqu'alors la beauté. Après une période si noire, l'eau fut pour moi une promesse de vie. Pendant quelques mois, j'ai fait un pas de côté. J'ai lu, écrit, médité et rencontré plein de gens incroyables dont je n'aurais pas eu l'occasion de découvrir les visages dans des bureaux parisiens. J'ai été surveillant dans une école. On a bien ri avec ces élèves pleins de vie. J'ai fait des paniers de fruits dans des chambres froides les dimanches après-midi. J'ai été vendeur dans un centre commercial où j'ai pu rencontrer une jeune immigrée algérienne dont l'intelligence m'a bouleversé au regard de sa situation si délicate. J'ai réalisé un peu plus que j'avais de la chance d'être bien né et écouté pour mon rang. Plus que jamais, je n'avais pas le droit de rester impuissant, passif, que j'avais une forme de responsabilité sociale. Sur mon chemin, j'ai aussi pu croiser des artistes aux Canaries dans un centre culturel et environnemental et partager ma chambre avec un clown chilien. Tout au long de ce volontariat, j'ai vécu de peu, mais avec une opulence d'art, de beauté, de respect de la nature et de conversations interminables à refaire le monde, dont mes contemporains ne pourraient pas se douter. Ce que j'ai perdu de confort, je l'ai gagné mille fois en richesse des relations humaines. Ils m'ont montré qu'un autre monde était possible, riche de sens, Lorsqu'à mon départ, j'ai reçu de mes amis musiciens une longue lettre me remerciant pour nos discussions et me souhaitant bon courage dans ma mission, vous n'imaginez pas les larmes qui ont coulé sur mon visage. Pour réduire mon empreinte carbone, je suis rentré de ce long séjour sur un bateau de marchandises. Coupé du monde, cette expérience à regarder les étoiles sur l'Atlantique comme au fond de moi-même était à couper le souffle. Si les âmes grisâtres des faubourgs de nos villes pouvaient seulement saisir qu'il existe un monde pétillant à côté du leur. En fait, tout c'est moi. J'ai alterné mon temps entre deux mondes qui ne se parlent ni ne se comprennent. C'est si dommageable. Je ne sais pas quel monde nous vous laisserons, mais nous allons y arriver. Mes petits-enfants, je vous le promets, de mes angoisses de jeunesse, un jour, nous rirons assis au bord d'un lac. Nous allons inventer de nouveaux paradigmes pour nous en sortir. Un monde s'écroule, mais la nature a horreur du vide, et un autre émergera. Il émerge déjà. Le pied de l'arbre mort est le meilleur des terreaux pour les jeunes pousses. Il suffit de les regarder naître dans la bouche des enfants. Des arts, de l'amour, de la beauté, de la sagesse, de l'imagination humaine sans limite, du courage devant l'abîme, du partage et de la symbiose avec la nature, nous trouverons notre salut. Car la relève est là. Pendant tout ce temps, j'ai ouvert mes horizons et pu rencontrer, pour tenter à tant prix, de trouver des solutions et de les construire avec les gens qui y croient. Et ils sont là. La relève est là, prête à prendre le flambeau. Récemment, j'ai intégré une association de jeunes décidés à prendre leurs responsabilités. Nous mettons en commun nos compétences pour engager toute la société, mieux connaître nos aspirations profondes et porter nos voix auprès de dirigeants pour tenter de les convaincre et de changer leurs politiques environnementales et sociales. Nous avons été accueillis à bras ouverts à l'Académie des sciences pour une réunion du G7. C'était complètement fou. J'ai 24 ans et les portes de toutes les institutions s'ouvrent à ceux qui seront à même d'éteindre l'incendie dont elles sont les responsables. Nous, jeunes en ce monde qui se meurt, nous n'arrivons pas à élancer notre vie sans nous dire que dans 30 ans, nous ne serons probablement plus là. C'est comme si nous avions appris que nous avions le cancer. Alors, la conscience de ce triste constat a considérablement accéléré notre maturité vers la sagesse. Nous qui avons compris que notre vie était précieuse et éphémère, nous la vivons avec d'autant plus d'intensité. C'est en réalisant qu'un jour nous ne serons plus de ce monde que nous prenons conscience que nous sommes vivants, pleinement. Aujourd'hui, c'est nous qui disons aux anciens ce que l'expérience devrait leur avoir enseigné. Ce monde marche sur la tête. Il est effrayant, mais jamais il n'a été aussi passionnant. L'histoire se déroule sous nos yeux, chaque jour, avec l'opportunité d'en être un acteur. Sachez que nous mettrons à chaque instant tout notre cœur, toute notre énergie. Nous y parviendrons. Nous ne sommes pas seuls. Combien sont-ils aujourd'hui tous ces jeunes et moins jeunes paumés qui ne veulent pas s'élancer dans un monde vide de sens et qui ont pourtant des rêves plein la tête? Combien sont-ils à n'attendre qu'à s'envoler vers un avenir à réaliser en commun? À attendre que l'étincelle pour enflammer leur cœur d'enfant? À attendre qu'un autre chemin soit montré? Nous sommes des millions à le chercher à nos portes. Et si je n'ai qu'une seule chose à leur dire, c'est que pour les avoir empruntés, ces chemins existent. Je ne sais pas ce qu'il nous faut de plus pour que nous abandonnions nos habits de tristesse et nos plans sur la comète, et que nous nous embrasions de joie à sauver ce monde malade. Mais nous y arriverons. Pour vous, pour nous, nous nous trouverons, nous nous lèverons, et nous y arriverons. Je vous en fais la promesse solennelle. Mes chers petits-enfants, je ne vous connais pas encore, mais sachez combien je vous aime. Il me tarde un jour de vous prendre dans mes bras. Je vous embrasse tendrement, Marin Moffret.
Merci beaucoup, Marin, pour ce très beau texte. J'espère que vous aussi qui nous écoutez avez apprécié ce beau texte qui est plutôt étonnant vu la date de son écriture, de la conscience et de l'anticipation de ce qui se passera plus tard. Et il est presque prophétique ce petit texte, mine de rien, avec ces quelques années de recul, ces 3 ans de pratiquement de recul après ce texte, on peut voir que beaucoup de choses finalement sont enclenchées dans cette direction là de la crise de la pandémie, la nature qui en a marre de ce qui se passe autour de nous et de comment nous gérons notre monde, de notre surdité et de notre manque de vision du réel et de ce que l'on fait. Mais dans tous les cas, ce texte, je trouve, est très beau et donne un magnifique message d'espoir et de courage. Parce que ce qui est décrit dans ce texte est cette volonté, et c'est déjà ce petit historique de ta vie, Marin, c'est une vraie preuve d'introspection et de conscience, de remise en question et de courage d'aller découvrir les autres, d'aller expérimenter, d'abandonner son confort dans une boîte où on est bien payé, où l'on a tout ce que l'on pourrait désirer, tout ça dans un but plus grand, qui sont ici tes hypothétiques futurs enfants. Je ne sais pas comment ils réagiront à l'écoute de ce message, mais je pense qu'ils seront très fiers de leur grand-père pour tout ce trajet. Et puis mine de rien, Marin, tu as bien avancé depuis, et maintenant tu nous en parles à la radio, tu le fais dans tes actes, et peut-être veux-tu en parler un peu plus ou dire ton petit mot par rapport à ce texte. Qu'est-ce qui t'a poussé le plus à l'écrire, et qu'est-ce que t'en penses maintenant de ce texte?
Déjà, je te remercie pour les mots que tu mets dessus. Alors déjà, c'est quelque chose de le lire à la radio. Je ne m'attendais pas forcément à ce que ça puisse m'émouvoir. C'était quand même le cas plutôt sur la fin. Qu'est-ce que j'en pense? Pour l'expliquer, c'était un cri du cœur à l'époque. Je l'ai écrit entre minuit et 6 heures du matin d'une traite en septembre 2019. Et il y avait cette espèce de cri de rage de vouloir se faire entendre, qu'un certain nombre de personnes qui peuvent être autour, qui pouvaient ne pas forcément toujours comprendre certaines choses exprimées, certaines choses qui sont dans les tripes,
des ressentis que tu avais.
Voilà, des ressentis, une façon de comprendre le monde dans lequel on est, qui reste bien évidemment conditionné et par ce qu'on est, par l'éducation qu'on a, par la place qu'on tient au monde, mais au moins de faire entendre cette espèce de cri d'urgence et de soif d'exister, de vivre et d'aimer, d'être joyeux, de pas vouloir rester contraint dans quelque chose qui nous correspond pas. Et donc à l'époque, j'avais besoin de l'écrire. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand je le relis, je me dis que j'étais pas complètement à côté de la plaque sur un certain nombre de sujets.
Ouais, c'est ça, c'est sûr. Tu l'as écrit au moment où j'ai l'impression... C'est un peu l'heure des artistes, la nuit, le petit matin, c'est le moment où tout est calme, où on n'est plus que là, avec soi-même. C'est le meilleur moment pour faire de la création, je pense, en tant qu'artiste. Moi, en fait, un peu de musique,
ouais,
je trouve ça.
C'est, en tout cas, c'est des choses qui sont là, qui maturent, on va dire, dans les tripes pendant des mois, puis tout d'un coup, là, ça
qui
sort.
Qui fermente même.
Oui, qui fermente, ouais. C'est quand
la pression monte.
J'aime bien écrire, et souvent c'est comme ça, c'est quelque chose qui est là. On a besoin un peu de se gorger des expériences du monde, et puis tout d'un coup, voilà, le texte sort. Donc là, c'était le cas à ce moment-là. Après, ça n'a pas été facile forcément par la suite, parce que dans ce texte, je parle d'un groupe de jeunes qui voulaient changer les choses de l'intérieur, et notamment de réunions... au G7 pour l'Académie des Sciences, enfin à l'Académie des Sciences pour le cadre du G7 en mai 2019. Et en fait, c'est des choses qui me désespéraient, c'était de se dire que notre monde était complètement, enfin en tout cas notre système était complètement conditionné par un certain nombre de grands verrous systémiques. Et pour vous réexpliquer un peu cette scène-là, on se retrouvait dans une réunion publique où il y avait des académiciens, des députés, le vice-président du Conseil d'État, des représentants de chez Pfizer, de chez Thales, des conseillers spéciaux d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe. Et le sujet de la discussion, c'était pourquoi est-ce que les citoyens n'ont pas confiance dans la science. Et donc au début, ils parlent de tout ça en 2019, donc avant le Covid. Il parle de l'idée qu'il y a une forme d'horizontalité de l'information, de fake news, le fait qu'il y ait une forme aussi que les paroles d'autorité n'existent plus vraiment parce que les personnes publiques ou les personnes scientifiques parfois défendent des intérêts privés lorsqu'elles parlent et que ça devient très compliqué. Donc j'étais plutôt d'accord sur le constat, et puis au fur et à mesure la discussion a évolué vers l'idée qu'il fallait que l'Europe se dote d'une force centralisée d'intelligence artificielle et de 5G pour défendre nos intérêts et notre souveraineté par rapport aux Américains, aux Chinois et aux Russes. Et en fait, quand on entend ça...
On perd le lien de la confiance en la science avec finalement la technique. Plus de science pourra donner de la confiance en la science. Bah, c'est un peu bizarre.
Plus exactement, c'est l'idée de se dire que même si j'avais pu convaincre la totalité des personnes individuellement dans cette salle qu'on allait droit dans le mur, et d'ailleurs elles en avaient conscience parce qu'elles disaient oui, ça va demander des ressources énergétiques et de ressources matérielles fortes pour répondre à cette demande en 5G, en intelligence artificielle. Et oui, ça va avoir de grosses incidences sociales et ça va mettre peut-être encore plus de personnes sur le carreau parce que leur emploi va disparaître. Eh bien, il faut y aller pour défendre nos intérêts de souveraineté, nos intérêts stratégiques de croissance. Et donc, en fait, ça m'a beaucoup fait réfléchir sur ces grands verrous systémiques, ces grands imaginaires qu'on se donne en société. La croissance, la souveraineté, le pouvoir d'achat, le PIB, qu'est-ce que c'est que réussir sa vie. Et où, en fait, tant qu'on est conditionné dans ces imaginaires-là, on n'arrivera pas à profondément transformer, on va dire, la matrice sociale qui nous fait nous organiser en tant que société, et d'où ensuite la suite d'autres projets que...
La prise de conscience d'un prisme généralisé dans lequel on se doit de voir le monde et d'agir pour pouvoir réussir. Qu'est-ce que la réussite ? Est-ce que, comme tu disais, la réussite pour ces personnes-là, c'était de le voir à travers ce prisme-là, de la croissance, de l'économie, du pouvoir d'achat, des symboles de réussite dans lesquels on s'abreuve depuis toujours, mais la réussite ne dépend qu'à chacun. Comme tu le disais dans ton texte, tu étais très heureux dans ce moment de pas de côté, découvrir de nouvelles personnes qui vivent totalement, totalement ou juste en partie en marge, d'une autre façon, d'une façon différente. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont moins réussi leur vie ou pas ? J'ai l'impression que...
Bah, à mes yeux, pas du tout. Mais tant que socialement, même si en ce moment, en fait, là, ce texte a été écrit en 2019, il y a quand même de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis, donc il faut aussi s'actualiser avec le monde dans lequel on vit. L'imaginaire collectif de la réussite, c'est d'avoir de l'argent, une maison et partir en week-end partout en Europe en prenant l'avion juste pour un week-end, quatre fois en six mois, ça va pas, quoi. Et ça se réinterroge. Ça se réinterroge. Et ensuite, ça a été un des projets que j'ai pu porter.
Oui, ça a été un des projets que tu as porté. Ça s'interroge. Justement, quels sont ces nouveaux imaginaires ? Quels sont les nouveaux imaginaires à développer par toutes ces autres personnes, ces personnes différentes, tout cet archipel de personnes qui se rend compte que non, ça ne va pas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils imaginent et comment toi tu t'es approprié ce projet de travail des imaginaires ?
Alors je dirais pas que je me le suis approprié.
Adapté, tu te l'es...
J'ai souhaité le porter au départ avec un cousin qui s'appelle Loïc Marcet, que je salue si un jour il écoute cette émission. En fait, on s'est retrouvé un jour où on s'est dit, ok, on a envie d'apporter notre pierre à l'édifice pour pouvoir participer à la promotion de ces nouveaux imaginaires. Donc philosophiquement, on se disait, si jamais on arrive à transformer les imaginaires qui conditionnent nos croyances et le regard qu'on porte sur le monde et sur nous-mêmes, alors on va pouvoir faire pivoter les comportements. Donc ça, c'était vraiment la philosophie. Puis ensuite, on a fait des recherches, on s'est dit, bon, bah, ok, comment est-ce qu'on va commencer à transformer les imaginaires ? Et on a voulu fédérer une équipe autour de cette philosophie-là en février 2020, donc juste avant le Covid. Puis ensuite, le Covid est arrivé, ce qui nous a plutôt aidé parce qu'on avait beaucoup plus de temps. Et puis tout d'un coup, en fait, le glas sonnait pour pour la société. Moi, j'étais assez j'emploie des guillemets, un peu soulagé de me dire enfin, on rentre dans l'action et les autruches vont devoir lever la tête. Parce que c'était pas du tout imprévisible ce qui était en train de se passer à ce moment-là. C'était le fait d'une surexploitation de nos ressources et puis tout simplement une maladie qui se répand en l'espace de 3 mois sur la planète entière, ça témoigne aussi de l'ultra-mobilité de notre monde. Et puis ensuite, après, toutes les questions qui se sont posées sur notre fragilité systémique avec les masques qui sont produits à l'autre bout du monde et où en fait on se rend compte qu'on produit pas grand-chose chez nous.
La lenteur d'action pour protéger l'économie, puisque ouais. c'est ça qui a aussi participé à la diffusion de ce virus. On disait non, c'est bon, ça va, c'est pas un gros problème, on va pas arrêter ça parce que sinon on va avoir des problèmes. Au final, on n'a pas eu le choix.
En tout cas, je rentrerai absolument pas sur la question de savoir quelle est l'origine du virus, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire. Simplement, je pense que ça a permis de lever le voile pour un certain nombre de personnes qui pouvaient ne pas comprendre toutes ces questions systémiques. Et donc, pour venir sur l'arbre des imaginaires, on a fédéré une équipe de... On a fonctionné en cercle concentrique au niveau de l'engagement. Donc, Loïc et moi, on était vraiment au cœur de l'impulsion et de l'idée. Puis ensuite, on a eu une dizaine de personnes qui ont aussi très activement... aider à écrire des fiches, fédérer l'équipe, travailler sur le graphisme, sur le site internet. Et ensuite, on a encore 50 autres personnes qui étaient plus des sympathisants qui nous ont aidés à construire notre projet. Et donc maintenant, de quoi je parle ?
Oui.
Quel est ce
J'allais
projet ?
En parler.
C'est donc l'Arbre des Imaginaires. C'est un site internet que vous pourrez retrouver sur internet si vous tapez l'arbre-des-imaginaires.fr. C'est une forme de grand Wikipédia de la transition écologique et sociale, dont le but est de mettre en lien et en cohérence toutes les pistes de solutions, les sources d'inspiration, les travaux, les personnes et les projets inspirants autour de l'allégorie d'un arbre, dans le but de promouvoir de nouveaux imaginaires et de faire des connexions. Pourquoi ? Déjà parce que En travaillant un petit peu, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de gens qui portaient des projets, qu'il y avait déjà énormément de recherches et qu'il ne fallait pas toujours recommencer. Et ensuite, parce qu'une fois qu'on... En fait, quand on parle d'imaginaire et de récit, et dire « Ok, il faut promouvoir des nouveaux imaginaires », comme tout est interconnecté, si on touche un sujet, ça touche à un autre, puis ça touche à un autre, puis ça touche à un autre. Je vais vous donner un exemple concret. Quand on dit, par exemple, « Il faut arrêter de prendre l'avion », pour partir en week-end à Rome, par exemple. Et bien derrière, une personne va dire quoi ? Elle va dire, bon, en fait, si jamais je peux pas prendre l'avion, et bien ça va me demander plus de temps de trajet pour y aller, si j'ai envie quand même d'aller à Rome. Et donc, ça va me demander plus de temps de vacances. Et donc, on passe tout d'un coup du trajet au voyage, puis au travail. Puis après, on dit, bon, si jamais je vais moins avoir de vacances, parce que je vais prendre des congés sans solde, par exemple, eh bien, ça va aussi rediscuter la question de l'argent que je vais gagner, comment est-ce que je subviens à mes besoins, comment est-ce que je fais pour payer mon loyer, comment est-ce que je fais pour continuer à vivre dignement si jamais je travaille moins, si j'ai envie de continuer à voyager. C'est juste un exemple. Mais en fait, c'est pour montrer que ces sujets doivent se penser en arborescence et qu'on ne peut pas les aborder, on va dire, en silo. Et donc, pour expliquer un petit peu l'arbre des imaginaires, la façon dont le site est construit, en fait, vous allez avoir l'allégorie d'un arbre, et en fonction de l'endroit où vous allez vous placer dans l'arbre, vous allez avoir des ressources qui ne sont pas les mêmes. Donc, quand vous allez aller dans les racines, vous allez avoir les grands modèles politiques, économiques, juridiques, philosophiques qui permettent de systématiser une transition. Quand vous allez avoir le tronc, vous allez avoir ce qui nous fait faire pilier en tant que société, à la fois en matière de biodiversité, et également par secteur industriel, donc la santé, le logement, le transport, le textile, avec les impacts et les pistes de solutions pour ces secteurs. Vous allez avoir l'écorce. L'écorce, c'est ce qui nous permet de nous protéger contre les arguments des climato-sceptiques qui existent un peu moins aujourd'hui, mais qui ont été beaucoup remplacés par les techno-solutionnistes, personnes qui pensent que la science va tout sauver et qu'en fait, on n'a pas besoin de changer de modèle. Ensuite, on a les herbes folles, qui sont des concepts à réinterroger dans la société. Donc typiquement, ce n'est pas forcément des mauvais concepts, mais qu'est-ce qu'on met derrière ces mots-là ? Derrière le mot croissance, derrière le mot pouvoir d'achat, derrière le mot réussir, gagner sa vie. Ouais, vas-y.
Derrière le mot égalité, derrière le mot liberté, derrière le mot travail.
Ouais.
Et ça, justement, c'est quelque chose qui me marque beaucoup. Qu'est-ce que la valeur du travail ? Qu'est-ce que le travail aujourd'hui ? Pourquoi on travaille ? C'est des grandes questions qui, des fois, n'ont pas beaucoup de sens. Des fois, on travaille pour subvenir. Des fois, on travaille parce qu'on en a envie. Des fois, on travaille pour le plaisir dans nos hobbies. Moi, nous travaillons pour le plaisir quand nous sommes animateurs radio. Mais aussi parce qu'on a envie de partager tous ces imaginaires-là, justement, autour de nous. Et d'ailleurs, on ne va pas faire ça tout seul. Je pense que les projets que nous l'ont fait nous ne les faisons pas seuls, puisque nous invitons des personnes. Le projet de l'Arbre des Imaginaires ne sera pas tout seul. Un Wikipédia, ça ne peut pas se faire tout seul. C'est vraiment... Wikipédia, c'est un outil collaboratif, par essence. Validé en pair-to-pair, alimenté par des bénévoles. C'est un outil très puissant.
Tout à fait. Tout à fait. C'est, d'ailleurs, j'ai pas tout à fait fini de... Je sais pas ce que t'en penses, Arthur, si je finis de...
Présenter
l'arbre, mais je peux répondre déjà sur le côté collaboratif. J'ai parfaitement conscience de là où je me situe et des biais cognitifs qui sont les miens. Même si on ne se réduit pas à son essence, je ne suis pas juste un homme, pas juste blanc, pas juste d'origine, on va dire, socialement, socio-économiquement plutôt aisée, mais c'est quand même des biais cognitifs qui me font voir le monde d'une certaine façon et qui n'est par enfin par essence, on va dire, pas limité, mais en tout cas, c'est pas omniscient, quoi. Et donc, on a l'idée d'avoir des abeilles qui viennent à la fois butiner dans le site, donc venir piocher, aller chercher des sources d'inspiration, et qui peuvent aussi polliniser, donc à leur tour proposer une fiche, à leur tour venir contribuer à ce site internet, déjà parce que comme c'est hyper foisonnement que ce sujet de la transition, même à une belle équipe organisée, on n'arrive pas à tout traiter, mais aussi parce que si on veut éviter de reproduire les écueils qui, encore une fois, reproduisent toujours les mêmes schémas de domination sociale et d'exclusion, il faut donner les outils d'encapacitation à un panel le plus large possible de personnes.
Donner les outils, mais aussi apprendre des erreurs de chacun. Parce que, justement, ça, comme tu disais, tout ce Wikipédia, c'est pour ne pas reproduire les erreurs. Et les erreurs, avoir une expérience de « oui, on a fait ça, on a fait telle erreur, du coup... » Pour pallier à cette erreur-là, on pense qu'il faudrait faire comme ça. C'est de l'intelligence et du savoir nécessaire pour toutes les autres personnes plus tard qui voudraient se lancer dans un projet similaire. Ça ne sert à rien de réinventer la roue à chaque fois qu'on va aller se déplacer quelque part. Donc autant capitaliser et mutualiser le savoir. On a de la chance, le savoir, c'est une petite métaphore que j'aimerais partager. Le savoir, c'est fondamentalement différent de l'argent. Pourquoi ? Parce que le savoir, c'est la seule chose que tu peux échanger, mais ne jamais perdre. C'est-à-dire que tu vas donner du savoir, mais quand tu partages du savoir, ben, tu le partages, tu le multiplies. Il va faire que grandir. Tant que l'argent, tu vas l'échanger, il va rester stable. Donc c'est un peu fini, mais si on veut quelque chose d'infini, une croissance infinie, finalement, qu'est-ce qui pourrait faire ça à part le savoir ? Seul le savoir permettrait une croissance infinie.
Après, la question de la croissance, c'est un large sujet parce qu'encore une fois, de quoi parle-t-on quand on parle de croissance ? Souvent, quand on emploie le mot croissance dans les imaginaires, on parle de croissance économique, alors qu'elle se fait au détriment de la décroissance de la biodiversité, la décroissance du bien-être au travail, la décroissance de l'espoir dans l'avenir, par exemple. Et donc, le mot croissance, même le croissantisme, puisque j'aimerais qu'on puisse rajouter ce « isme » qui rappelle que c'est une idéologie comme les autres, est un imaginaire qui est à questionner. Et je finis juste la petite présentation de ce fameux savoir qui se trouve dans l'arbre des imaginaires. Donc là, ça, c'était pour les herbes folles. Ensuite, dans les graines, ça va être des concepts qui sont à faire émerger, au contraire, dans nos imaginaires. Là, on reste dans les choses qui sont un petit peu abstraites. Et pour rentrer un peu plus dans le concret, il y a les fruits, qui sont des projets concrets dans lesquels on peut s'engager si on a envie d'œuvrer à la transition écologique et sociale. On a les feuilles, qui sont des associations et des organisations dans lesquelles on peut s'engager également si on a envie d'y participer. On a les fleurs, qui sont des œuvres d'art qui viennent nous inspirer, qui viennent éveiller nos imaginaires et venir rendre plus large le champ des possibles. Et enfin, parce qu'on reste des humains et qu'on est toutes et tous à une place qui n'est pas toujours la même et qu'on a parfois besoin d'être accompagné, il y a la question de la sève. Et la sève, c'est plus des questions d'énergie de vie et d'accompagnement sur des aspects plus spirituels et psychologiques pour pouvoir essayer d'aborder le plus large panel de personnes là où elles se trouvent. Et en fait, la façon dont je vois un petit... Donc là, j'ai fini. Et puis après, il y a les nutriments essentiels qui sont des penseurs et des penseuses qui viennent un peu nous inspirer. Et donc, c'est un site qui a été lancé en janvier 2021. On est bientôt à 20 000 visites sur le site. On a pu notamment faire un certain nombre de partenariats avec... le campus de la transition, la fresque de la renaissance écologique, la Fabrique des récits et le Festival international du film de l'environnement. Et la façon dont, pour l'instant, le site est lancé, on avait envie de créer un jeu, parce que l'idée que j'en ai, c'est que ça puisse être une forme de partition collaborative où on puisse venir piocher dans le site les ressources dont chacun a besoin pour pouvoir être en capacité et trouver sa place dans cette grande harmonie, dans cette espèce de grande symphonie.
Faire l'abeille.
Oui, en fait, venir dire, bah, moi, je travaille dans tel secteur, je suis intéressé par tel sujet, je viens de tel milieu, j'ai telles angoisses ou telle volonté, et j'ai envie de m'engager de telle façon, et je ne sais pas comment faire. Et donc, en fait, dans le site, de venir piocher hop, les éléments dont chacun a besoin pour pouvoir faire son pas de côté, ou aller plus loin, ou s'inscrire en lien avec les autres, sachant que sur la fameuse courbe du deuil dans laquelle les personnes sont engagées quand elles sont un petit peu... dans ce qu'on appelle l'éco-anxiété, tout le monde n'est pas du tout au même niveau, donc il faut pouvoir essayer d'embarquer tout le monde. Et ça, c'est quelque chose que j'ai essayé ensuite, par la suite, de mener plus concrètement.
Mais je pense qu'on en parlera un peu plus tard. Pour terminer, en tout cas, ce site, c'est une très belle métaphore filée de l'arbre et de quelque chose qui grandit et qui permet de nous, humains, de vivre. Fait partie d'un tout, l'arbre fait partie d'un tout et a beaucoup d'acteurs au sein de lui-même. Tu les as très bien définis avec toute cette belle métaphore. N'hésitez pas à y aller, soit pour vous rassurer, vous développer intellectuellement, spirituellement, personnellement, de toute façon dont vous sentez que vous avez besoin, ou même pour alimenter et partager vos expériences. Je pense que c'est libre à tous et à toutes. Mais là, on est un peu en retard d'ailleurs par rapport à ça. Ça va être le moment de la petite pause musicale. Je te laisse, Marin, annoncer le titre que tu as choisi.
J'ai choisi de vous faire écouter Boliviana de Ibrahim Ferrer, qui est un des chanteurs du Buena Vista Social Club de Cuba, qui est une musique qui souvent... me permet de m'évader, de m'envoler quand je l'écoute.
Belle écoute.
Please.
Nous voici de retour sur Radio Galère, enfin toujours, pas de retour même, mais de retour dans notre émission L'Écoforum avec Marin Moffray qui nous parle aujourd'hui de son parcours en tant que militant écologiste, de son parcours de déconstruction et de reconstruction. Et dans cette seconde partie, nous allons plutôt aborder le prisme de comment faire pour agir, comment faire pour rassembler ces petites mains qui ont envie de changer les choses et qu'est-ce qu'on fait. Donc, ma première question, Marin, qu'est-ce que tu as commencé à faire une fois avoir déjà posé ce projet de l'art des imaginaires ?
Alors juste, je précise, quand tu dis militant écologiste, je ne suis affilié à aucun parti. Voilà, c'est une démarche d'écologie intégrale, plus exactement, oui. qui a fait que, à titre personnel, j'avais envie de pouvoir vivre vraiment dans cette... Enfin, je sentais cet appel extrêmement fort de vivre dans la cohérence, de cette façon de vivre d'une façon de l'écologie intégrale, donc être sobre dans l'utilisation de nos ressources, mais pas forcément sobre dans la richesse humaine, la richesse des relations, la richesse du savoir, de la lecture, de l'art, de la musique, du théâtre, de la danse, etc.
En effet, tu fais bien de préciser tout ça, parce que l'écologie, c'est quelque chose qui est beaucoup axé environnement, animaux, ressources, climat, mais ce n'est pas que ça. L'écologie, c'est à la fois, c'est déjà avant tout comment on se sent bien avec soi-même, comment on se sent bien avec soi-même, comment on se sent bien avec l'environnement autour de nous et comment ensuite ça monte à l'échelle. Mais ça commence à l'état de chaque personne. On a une écologie interne, on est fait de millions de bactéries et autres. On a des dizaines d'organes qui fonctionnent magnifiquement bien ensemble. Il y a tout un écosystème à l'intérieur.
Ouais, bah c'est une image que j'aime bien, c'est l'idée de permaculture de vie. Souvent quand les personnes qui comprennent pas trop ce que ça implique l'écologie ou la dite décroissance, qui est un terme qui a ses limites, ils vont considérer que c'est le système actuel réduit et donc du coup avec des contraintes, avec des choses qui sont pas agréables, etc. Alors qu'en fait c'est une façon de réorganiser son rapport à l'existence. En fait on arrive vraiment sur des choses profondes. Et donc pour répondre de façon plus concrète, j'avais envie de quitter mon milieu à ce moment là je me sentais un peu en dissonance dans un milieu plutôt aisé, et j'avais envie de ne pas tomber dans l'écueil qu'on fait souvent à ces questions-là, de dire que c'est un sujet de bobo. Et donc à ce moment-là, donc il y a maintenant 2 ans, j'ai déménagé pour venir m'installer ici en colocation solidaire rue Curiole à Marseille, et en m'engager en service civique avec Unicité, notamment dans le quartier de Félix Piat, pour travailler sur les questions de sensibilisation à la transition écologique dans ce quartier. Félix Piat étant, comme vous le savez très certainement, un quartier populaire qui n'est pas tout à fait ce qu'on appelle quartier nord, mais qui est un peu le début et qui a des dynamiques qui sont très contradictoires entre la CMA-CGM qui est juste à côté et puis parfois des îlots de pauvreté qui sont extrêmes dans ce quartier-là.
Marché aux puces.
Ouais, et à ce moment-là, c'était pas du tout une logique descendante en disant « je vais vous apprendre la vérité ». C'était plus... déjà, moi, j'avais besoin profondément de me sentir dans cette espèce de communion, de me dire je suis aligné avec ce en quoi je crois, et puis je suis avec des personnes avec qui je partage des choses fortes, et donc un endroit où le cœur vibre. Et puis ensuite, se prendre un peu des claques, parce que si on a envie de participer à embarquer un grand nombre de personnes, je pense qu'il faut... essayer de l'incarner, sinon on est complètement hors sol. Et si on n'a pas cette conscience de l'expérience de ce qui peut être vécu par des personnes qui n'ont pas les mêmes trajectoires que nous, on reste limité dans la nôtre. Et donc un des grands projets qu'on a mené à Félix Piat l'année dernière, ça a été de mobiliser les habitants du quartier pour faire une fresque du quartier idéal de Félix Piat. Et donc on est allé faire du porte-à-porte dans les tours pour discuter avec les habitants, recueillir les avis, savoir quels étaient les besoins. Et puis, par exemple, en termes d'imaginaire, au début, on arrivait en disant « qu'est-ce que vous feriez pour changer votre planète ?» Puis en fait, ça intéresse, c'est complètement déconnecté parce qu'il y a beaucoup trop de contraintes et de choses qui arrivent avant de penser à la planète. Alors, on a posé la question « qu'est-ce qu'il faudrait faire pour changer le quartier ?» Et à ce moment-là, on entend « j'ai envie de vivre dignement, j'ai envie d'avoir de l'emploi pour mes enfants, j'ai envie de ne pas avoir froid l'hiver, de ne pas avoir trop chaud l'été, de pouvoir manger de la nourriture saine, d'avoir des espaces verts, toutes ces choses qui en fait correspondent à une approche écologiste, c'est-à-dire vivre dignement tout simplement. Et donc à partir de là, ensuite on a travaillé avec des enfants d'un centre social et avec l'atelier Méta 2 qui fait des fresques sociales également. Et donc on l'a peinte, on a peint cette espèce de monde un peu écosystémique sur cette fresque. Et d'ailleurs Félix Piat est un quartier qui va se transformer assez prochainement puisqu'il y a des travaux pour installer un très grand parc, le parc de Bougainville. Et donc à suivre, ça va sans doute avoir de grosses incidences sociales avec, malheureusement je le crains et j'espère que non, des populations qui vont déménager plutôt que de voir leur problématique être résolue. Et en même temps c'est un quartier qui, je l'espère, aura une façon de s'organiser qui soit un peu plus sobre et digne pour ceux qui y vivent. Et donc on a essayé de travailler là-dessus avec les habitants et surtout qu'ils puissent avoir cet espace pour discuter, pour s'incapaciter encore une fois.
Donc, créer du lien et faire travailler les imaginaires, parce que oui, c'est avant de réussir à faire, il faut quand même avoir une vision de qu'est-ce qu'on veut. Et pour ça, il faut se poser la question, il faut discuter, parce que une personne aura une idée, une autre en aura une autre. Ça doit être très enrichissant. Qu'est-ce que tu en as tiré le plus, toi ? S'il y avait un enseignement à dire, par exemple, qu'est-ce que ce serait ?
Alors, quand tu parles de la vision, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir une idée de là où on a envie d'aller collectivement, et en même temps, il faut être très très humble quand même. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas avec une idée toute faite en disant « tiens, je te la plaque ». Sinon ça marche pas, il faut vraiment être humble là-dedans. Je dirais que je me suis pris des claques et que ça fait du bien, parce que on sort complètement de sa zone de confort, on est face à des trajectoires de vie qui sont pas du tout les mêmes. Les personnes avec qui j'ai travaillé, donc Bonnie, Amina et Mathieu, que je salue aussi si un jour elle m'écoute, pour deux d'entre eux vivaient directement dans les quartiers et avaient des trajectoires qui étaient tellement différentes, et ensemble on a rediscuté les valeurs qu'on pensait partager mais sur lesquelles on n'avait pas la même vision. C'est quoi le respect, c'est quoi le travail, c'est quoi la façon de te montrer mon honnêteté. C'était vraiment extrêmement puissant que de faire cela. Et puis je trouve que ça permet de travailler sa palette d'approches pour essayer de, encore une fois, d'embarquer beaucoup de gens, que d'être confronté à des personnes où si jamais on parle avec ce qui est mon référentiel, ça ne marche pas.
Oui, tu en parlais déjà tout à l'heure. Tu es à peu près, tu penses être à peu près conscient de tes biais, et apprendre, comprendre, écouter les expériences des autres, savoir et prendre le temps d'écouter, de comprendre pourquoi ils pensent ça. Qu'est-ce qu'ils pensent de ça ? Qu'est-ce que le respect ? Qu'est-ce que le travail, par exemple ? Ça permet justement de changer ses billets. Et ça, tu le disais aussi au début, c'est ça, finalement, se prendre des claques. Moi, j'aime plus l'approche, la métaphore de se forger. La métaphore du forgeage. Pour forger, il faut frapper sans arrêt, mettre au chaud, mettre au froid, refrapper, retravailler. Et c'est tout ce processus-là qui va faire de nous une meilleure personne, une personne plus humble, une personne plus consciente de ce que peuvent vivre les autres sans forcément l'avoir vécu, mais au moins s'imaginer ou avoir le pouvoir d'avoir un minimum d'empathie dans ce qu'ils vivent. En tout cas, un très beau message. Prenez-vous des claques.
Oui, après, il y a des mauvaises claques, mais en l'occurrence, en fait, c'est surtout qu'ils m'ont appris plein de choses. Je sais même pas s'ils s'en sont rendus compte, mais ils m'ont fait grandir en tant qu'homme. Ils m'ont ouvert mes horizons. Ça m'a permis de trouver un endroit où je me sentais à ma place, où je me disais ici, en fait, je suis heureux parce que j'ai un espace pour pouvoir mener les projets qui me tiennent à cœur, d'être à la fois en colocation solidaire, à la fois en service civique, créer l'arbre des imaginaires en même temps. C'était une forme de permaculture de vie. Et donc une image que j'aime bien, c'est l'idée de se dire que c'est pas comme si j'avais un champ et je faisais que du blé, en disant par exemple, je suis avocat, tu fais quoi dans la vie ? Je suis avocat. Et c'est donc de la monoculture. Alors que là, c'est le fait de pouvoir à la fois être en service civique, faire cette fresque et discuter avec les habitants, puis être en colocation solidaire, faire des maraudes, travailler dans un théâtre, accompagner des jeunes qui sont aussi de quartiers dit prioritaire, même si ce mot se questionne. Et puis travailler sur une portée plus intellectuelle avec l'arbre des imaginaires, et essayer ensuite d'aller porter ces différentes réflexions auprès de décideurs politiques, que ça soit au niveau local comme au niveau national. Et donc et puis ensuite aller en parler à la radio, etc. C'est hyper riche, c'est hyper dense, c'est extrêmement intéressant de faire ça. C'est de plus en plus compliqué quand on me demande ce que je fais dans ma vie, et en même temps c'est de plus en plus riche, et puis les sujets se complètent en fait, parce que chaque chose, c'est un peu comme de la permaculture avec deux plantes qu'on va mettre côte à côte et qui en fait vont émettre des nutriments qui se...
Il y a des synergies entre voilà. tes activités. L'une permet d'alimenter ta réflexion autre part, l'autre te permet de diffuser de la bonne parole ou tes idées, des pensées que tu as envie de partager, que tu aurais envie, que tu aimerais que les personnes aient aussi et qui se l'approprient.
Juste sur la question bonne parole, on va pas plus rentrer dans le champ christique.
Avec des grandes guillemets.
Non, là, encore une fois, il faut rester hyper humble. Moi, j'ai toutes mes limites. Il y a plein de sujets sur lesquels je continue à travailler à côté où je sens que j'ai pas encore trouvé ma place. Tu vois, on travaille.
On apprendra toute notre vie.
Oui, on apprend toute notre vie, même si j'ose espérer qu'à un moment, on peut quand même arriver à trouver une forme de paix et de santé profonde, parce qu'on a trouvé sa place et qu'en fait, on est devenu un danseur qui s'inscrit dans cette espèce de grand ballet général. Mais ça prend du temps avant de trouver cette place-là.
C'était pas toi qui m'avais dit le plus beau dans un voyage, c'est pas forcément là où tu arrives, c'est le voyage en lui-même, et justement de profiter de ce voyage. Ce serait pas ça qu'il faudrait que tu prennes?
Alors cette phrase-là, je l'ai entendue par d'autres personnes.
Mais tu me l'avais dit, je crois.
Je pense pas que ça soit moi qui l'ai... Non, ce qui est sûr, c'est que ça vient pas de moi, mais oui, c'est... Il y a les deux, l'ambition est belle, mais c'est la beauté du geste. Je porte de plus en plus intérêt à la question de la beauté du geste, parce qu'on n'est pas du tout sûr en fait d'y arriver. Ce qu'on sait, si on se remet dans le contexte des grands bouleversements environnementaux et puis des potentiels et même très certains effondrements qui arrivent et qui sont déjà en cours vu la chaleur qu'on a en ce moment, c'est qu'il y a des choses physiques, on va dire, de l'ordre des bouleversements environnementaux sur lesquels on ne va pas pouvoir revenir, qui sont déjà en cours, et le plus grave est encore à venir. En revanche, ce qui n'est pas perdu, c'est la question de l'effondrement social. Et ça, je suis un optimiste, ou en tout cas un volontariste, sur la question de se dire que même si on va devoir s'adapter à des situations qui sont de plus en plus hostiles, j'ai envie de croire dans l'humain, dans la capacité à dans cette contrainte et face à ce pied du mur, pouvoir... sentir le danger qui souffle dans notre cou et aller chercher des solutions et des façons de s'organiser en société qui soient surprenantes et qu'on fasse de beaux projets ensemble.
Merci Marin. En tout cas, ça c'est sûr, tellement volontariste qu'il y a un dernier projet dont tu voulais nous parler ce soir qui s'appelle la Cité des Transitions. C'est un projet dont moi, de mon point de vue extérieur, je trouve que tu t'es donné corps et âme dans ce sujet. Sur ce projet, pardon. Et tu l'as présenté hier à la mairie centrale de Marseille devant tout un collège d'acteurs divers et variés sur la transition. Je te laisse en dire deux mots parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps pour notre émission. Je t'en prie, Marin.
Ouais, merci Arthur. Je pense qu'effectivement, la Cité des Transitions, ça sera l'occasion d'en discuter un autre moment. Le but est de fédérer... Enfin, en fait, oui. Le but est de fédérer un certain nombre d'acteurs qui œuvrent aux transitions environnementales et sociales à Marseille, et de leur permettre de mutualiser leurs ressources de lieux, leurs ressources compétences dans la capacité de répondre aux enjeux et pour elles-mêmes de pouvoir vivre dignement de ce qu'elles font, et donc de ne pas avoir des approches en silo et par secteur, mais une approche vraiment transversale qui accompagne la ville dans de la co-construction de politiques publiques. Et pour aller un peu dans la continuité de mon parcours, le but c'était de se dire maintenant qu'on a posé ça, on a un peu en musique, enfin on a écrit la partition avec l'Arbre des Imaginaires, comment est-ce qu'on met ça en musique sur un territoire. C'est pour ça que la Cité des Transitions m'a intéressé, qu'après j'ai voulu porter ça auprès d'acteurs publics. Ce qui est très intéressant, et on finira là-dessus, c'est qu'en réalité, quand on rentre dans ce concret-là, on n'est plus du tout face à certains enjeux de liés aux transitions et tout ce qui a pu être pensé dans l'arbre des imaginaires. On est beaucoup plus sur des aspects plus concrets, en fait. Des enjeux de loyer, des enjeux de foncier, des enjeux économiques, des enjeux d'égo politique.
Des enjeux de gouvernance.
Des enjeux de gouvernance, des enjeux de rédaction de statuts, des enjeux de faire en sorte que chacun, avec ses propres intérêts, puisse atterrir et se mettre au bord de la table pour construire un projet. Ça n'a pas du tout été facile.
De business model aussi, pour que tout le monde puisse s'y retrouver et vivre dignement de ce projet-là.
Voilà, ça n'a pas du tout été facile, mais il y a quand même une bonne centaine d'acteurs et d'actrices. Quand je dis actrices, là je parle vraiment des structures qui ont envie d'y aller. Tout est encore à construire. Elles ont rendez-vous en septembre prochain. J'espère que le défi sera relevé parce qu'elles le méritent et parce qu'on n'a aussi pas trop de choix, en fait.
En tout cas, on vous tiendra au courant et on vous permettra de suivre un peu ce sujet-là et ce projet-là dans son ensemble. Ça va être le moment de rendre l'antenne. Vous pourrez nous réécouter demain matin lors de la fête nationale de 9h à 10h sur Radio Galère 88.4 comme d'habitude. Et je vous dis au revoir et je vous souhaite une très belle soirée.
Merci beaucoup, bonne soirée, à bientôt.